Radio Capi.
Oh, Capi. Le journal, présenté par Gisèle Cage.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Opération Dobo contre les bandits urbains à Kinshasa. Plus de 270 condamnés sur plus de 2500 interpellés en l'espace d'un mois. Le gouvernement se propose d'étendre cette opération à d'autres grandes villes du pays, annonce à Radio Capi le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, condamne l'offensive récente menée par le mouvement du 23 mars à Masisi, dans la province du Nord Kivu, en violation de l'accord du cessez-le-feu signé le 30 juillet 2024 entre la RDC et le Rwanda. Cette escalade de violence qui affecte cruellement les populations civiles doit cesser immédiatement, a martelé Bintou Keïta dans un communiqué. 60 ans déjà depuis que le centre pour handicapés physiques Shirika, la Umoja de Goma, est au service de la population. L'administrateur de ce centre, Sylvain Siahava, nous parle des services offerts par cette œuvre du diocèse de Goma. Il est notre invité, c'est tout pour le titre. Je le disais dans les titres, au moins 276 bandits urbains ont été condamnés devant les cours et tribunaux sur plus de 2500 interpellés en l'espace d'un mois dans le cadre de l'opération Ndobo à Kinshasa. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a livré ce chiffre ce mardi dans un entretien accordé à Radio Capi. Il a également précisé que 127 personnes ont été transférées aux prisons de haute sécurité, 149 sont en transit à la prison centrale de Makala et au moins 301 se trouvent encore en détention préventive. Jacquemain Chabani le dit au micro de Blaise Ndongala.
Nous sommes en phase d'évaluation de cette première étape pour nous permettre de nous rassurer d'abord de tout ce qui a déjà été fait et d'accentuer pour sécuriser davantage la ville de Kinshasa et nos populations. D'autres ont été relaxés parce qu'il n'y avait pas de charge qui les concernait après leur arrestation. Ils se sont sûrement trouvés malheureusement dans le mauvais milieu où la police était en train d'opérer face au banditisme urbain. Je crois que notre police fait un effort significatif. Nous-mêmes, au niveau du ministère, nous sommes en pleine opération de renforcement de notre police. Parce que c'est une police aussi qui a besoin d'être renforcée en termes de moyens opérationnels, mobilité, matériel de travail, mais aussi formation. Là, je peux rassurer nos populations qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait pour permettre à ce que la République démocratique du Congo soit dotée d'une police mieux qualifiée, mieux encadrée. Et nous allons très bientôt, ici au courant de l'année 2025, lancer des grandes opérations de recrutement.
Jacquemain Chabani assure que le gouvernement envisage d'étendre l'opération Ndobo à d'autres grandes villes du pays telles que Matadi, Kikwit, Goma, Lubumbashi et Mbandaka. Le ministre d'État en charge de la justice a salué lundi la mesure sur la levée du moratoire de la peine de mort en RDC lors du briefing de presse tenu avec son collègue de la communication et médias à Kinshasa. Constant Mutamba estime que cette mesure est nécessaire dans un pays en proie aux bandits urbains, aux agresseurs et détourneurs de deniers publics. Les explications de Blaise Ndongala Mayanda.
Devant les journalistes de plusieurs médias, le ministre d'État, ministre de la Justice, n'a pas caché sa satisfaction de voir le pays exécuter la peine de mort pour décourager tout ce qui entrave la vie des Congolaises et Congolais. Il est d'avis que la RDC n'a pas droit de tout copier de l'Occident au risque de s'engager au débat stérile alors qu'il a grandement besoin de garantir le minimum possible à ses citoyens. Constant Mutamba.
On ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens.
Pour les ministres d'État, ministres de la Justice, la levée du moratoire sur la peine de mort ne constitue aucunement un recul des droits de l'homme à travers le pays. Constant Mutamba a cité certains pays de l'Occident reconnus dans la défense des droits de l'homme, mais qui appliquent la peine de mort à l'instar des États-Unis d'Amérique.
Aux États-Unis d'Amérique, jusqu'à aujourd'hui, on exécute la peine de mort. Dans plusieurs États fédérés. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas droit de l'homme aux États-Unis?
Le ministre de la Justice a par ailleurs balayé du revers de la main la rumeur selon laquelle il aurait envoyé une vague d'inciviques dans d'autres provinces du pays pour qu'ils soient exécutés.
Rendons-nous à présent au Tanganyika. Évasion de 5 détenus de la prison centrale de Manono ce week-end. L'administrateur du territoire de Manono exprime son indignation face à cette nouvelle évasion. Il annonce que cette maison carcérale nécessite une subvention du gouvernement provincial du Tanganyika pour renforcer la sécurité et mettre fin à des évasions. À répétition, le point avec Paulin Munanga.
L'administrateur du territoire de Manono annonce que les détenus ont placé des bois sur les murs de la prison pour s'évader. Il souligne que cette évasion a été facilitée par le policier qui assurait la garde et qui est aussi en cavale. Pour Cyprien Kitanga Kibale, la prison centrale de Manono doit être réhabilitée pour améliorer les conditions carcérales et élever les murs de clôture.
Ils ont escaladé le mur et ils sont partis en complicité avec le policier qui était commis à la garde. Il y a trop d'évasions à Manono. Cela d'abord est dit à quoi? Les normes des prisons, c'est au moins 6 mètres. Mais notre prison a 3 mètres de mur. Imaginez. Nous avons déjà fait des rapports. D'ailleurs, quand il y a eu des évasions massives, ici, il y a eu une commission de la province qui est descendue. Mais on s'attendait des recommandations qu'on a données et rien n'a été résolu.
En 2024, une série d'évasions ont été enregistrées à la prison centrale de Manono. La plus spectaculaire est celle de la mi-juillet où tous les détenus de la prison centrale de Manono se sont échappés après avoir creusé un tunnel. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa, la fondation Bill Clinton pour la paix plaide pour l'amélioration des conditions de travail des agents pénitentiaires. Elle demande également à l'État congolais d'installer une cabine téléphonique à la prison centrale de Makala. Cela permettrait aux détenus de rester en contact avec leurs familles qui leur apportent de la nourriture. Selon cette ONG, 80% des détenus ne mangent pas la nourriture mal préparée en prison. Écoutons les explications d'Emmanuel Adou Kolé, président de cette ONG de défense des droits de l'homme, au micro de Jeff Ngoy.
Beaucoup les personnels sont mécontents pour une nouvelle décision qui est prise par le nouveau directeur. Demain, ils sont en discussion pour que cette mesure soit enlevée. Mais ce qui est vrai, nous plaidons pour que l'État revoie le problème de communication. Parce que l'État congolais ne dispose pas les moyens adéquats de financer les matériels que les prisonniers vivent. Les zones dans lesquelles cet appareil, ça leur permet d'être en contact avec les familles. Surtout que les prisonniers qui sont pas en famille, c'est à Kinshasa. Parce que vous savez, on prend les prisonniers de Katanga, de partout dans la province, on a mis à Kinshasa. Alors, utilise ce téléphone-là pour être en contact avec les familles. Parce qu'il n'y a pas un centre de cabine de téléphonique en prison comme en Andolo pour que des gens soient être en contact avec les parents. Même pour mettre les propriétés en prison, ce sont les prisonniers qui font la cotisation. Donc, je vous dis que l'État n'a pas les moyens de son action. 80% des prisonniers, ils ne mangent pas les nourritures qu'on prépare en prison.
En perspective d'un mouvement de grève évité hier lundi à la prison centrale de Makala, les nouvelles autorités pénitentiaires ont engagé un dialogue avec le personnel pénitentiaire en vue d'assoupir certaines mesures, dont les restrictions relatives à la pratique de petits commerces à l'intérieur de la prison. La situation est bien calme à Makala, avec une bonne entente de tous les agents, selon ces autorités, en ce qui concerne les téléphones ravis aux détenus au cours d'un briefing hier avec le ministre de la Communication et Médias. Le ministre d'État et ministre de la Justice a rappelé la stricte application de la loi pénitentiaire interdisant à tout détenu de posséder un téléphone, un réchaud et un couteau, ce qui constituerait un danger à la sécurité pénitentiaire d'après Constant Mutamba. Je l'ai annoncé dans le titre, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO condamne avec la plus grande fermeté l'offensive récente menée par le M23 le 2 janvier en cours, notamment à Masisi, dans la province du Nord-Kivu. Dans un communiqué de presse publié ce mardi à Kinshasa, Madame Bintou Keïta indique que cette attaque tragique a causé la mort d'au moins 7 civils et entraîné le déplacement de dizaines de milliers de personnes, exacerbant ainsi la crise humanitaire déjà sévère dans l'est de la RDC, grâce à Mouzati pour des précisions.
À en croire la chef de la MONUSCO, le M23, qui selon le groupe d'experts des Nations Unies est soutenu par des forces extérieures d'un État voisin, a violé l'accord de cessez-le-feu signé le 30 juillet 2024 entre la RDC et le Rwanda. Au 4 janvier, le M23 a pris le contrôle de la cité de Masisi, centre administratif du territoire du même nom. Madame Bintou Keïta insiste sur l'importance du respect de l'intégrité territoriale de la RDC en réitérant l'engagement ferme de l'Organisation des Nations Unies à soutenir ses principes fondamentaux. Cette escalade de violence qui affecte cruellement les populations civiles constitue un tournant tragique en ces débuts d'année 2025 et doit cesser immédiatement, déclare Madame Bintou Keïta. J'exprime mes plus sincères condoléances aux familles des victimes de ces atrocités. Je déplore la reprise des offensives militaires au Nord Kivu et appelle toutes les parties à soutenir pleinement le processus de paix de Luanda en cours sous l'égide du président João Lourenço, ajoute-t-elle. Ainsi, elle réaffirme l'engagement inébranlable de la MONUSCO à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en RDC et appelle toutes les parties prenantes à œuvrer de manière constructive pour mettre fin aux violences et parvenir à une solution pacifique et durable au conflit dans la région.
En lien avec les combats au Nord Kivu, l'armée congolaise et ses alliés, le Wazalendo, ont repris ce mardi le contrôle de l'agglomération des Ngungu dans les territoires Ufamandu, premier territoire de Masisi. Cela fait suite à des combats qui les ont opposés toute la journée aux rebelles du M23 qui occupaient la zone depuis environ un an. Selon des sources coutumières locales, ce mardi marque le troisième jour des combats contre cette rébellion soutenue par le Rwanda sur l'axe allant de Numbi à Ngungu. Dans l'Ufamandu, jusqu'à tard ce mardi, des tirs se faisaient encore entendre dans cette partie de la chefferie des Baoundé, dont les territoires de Masisi. Rappelons que d'autres violents combats opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23 ont été rapportés entre 4h et 6h du matin ce mardi autour de la cité de Sake dans le même territoire. En Ituri, 12 corps sans vie de personnes tuées par des présumés ADF ont été découverts samedi et dimanche dans la forêt aux environs du village de Buanasura et Otmaber, dans le sud du territoire d'Irumu. Des activistes de droits de l'homme plaident pour l'intensification des opérations conjointes FARDC armée ougandaise dans cette zone où les ADF multiplient les exactions contre la population. Il faut dire que 4 premiers corps ont été découverts samedi soir aux alentours du village de Buanasura, en plein forêt dense, par des jeunes volontaires. Selon des activistes de droits humains, les victimes ont été tuées par des hommes armés identifiés comme de rebelles ADF. Dimanche, 8 autres corps sans vie ont été retrouvés près d'Otmaber, dont le groupement de Banda Vilemba. Toutes les composantes de la société civile du Sud Kivu cherchent à comprendre le flou entourant l'affaire d'exploitation illégale des minerais par un groupe d'étrangers chinois dans les zones rurales. Le mouvement citoyen ainsi que d'autres structures citoyennes ont organisé hier un sit-in devant le cabinet du gouverneur de province à Bukavu en attendant la tenue d'une marche pacifique élargie à toutes les composantes. Jean Kassami.
La goutte qui fait déborder les vases, c'est bien l'importante somme d'argent plus un important colis d'or saisi sur un groupe de Chinois le 4 janvier à Bukavu. La société civile aurait été alertée que de fortes pressions seraient ourdies à Kinshasa pour venir récupérer cette aubaine vers une destination inconnue. Néné Bintou, présidente du bureau de coordination de la société civile Sud-Kivu.
Au départ, les montants étaient de 800 000, maintenant on parle de 400 000. C'était 12 lingots, on commence à parler de 10. En tout cas, nous voulons en savoir plus en attendant notre manifestation générale qui aura lieu le mercredi.
Le gouverneur a rassuré la délégation que ces colis de grande valeur est toujours à Bukavu et sera consigné à la banque. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Dans la province de Lomami, interpellation ce lundi par l'auditorat militaire du garnison de 3 officiers de la police nationale congolaise ville de Mouné-Ditou. Ils sont poursuivis pour violation de la procédure régulière de déploiement et de dotation des hommes en uniforme. Cela après le double meurtre commis par un agent de la police sur 2 sujets chinois le jour de la Saint-Sylvestre. Explication Esther Dalafina.
Il s'agit du commandant du commissariat urbain de la police nationale congolaise, de son collaborateur du bureau 3, ainsi que du commandant de l'escadron d'intervention mobile. D'après le colonel Bora Ozima, auditeur militaire de garnison de Mouneditou, ces trois officiers ont détaché de manière illégale le brigadier chef Mutombo Kanyamecha Dominique, pourvu d'une arme pour assurer la sécurité des sujets chinois pendant qu'il ne faisait pas partie des effectifs autorisés pour cette unité. L'auditeur juge cet acte d'une violation flagrante de la procédure régulière de déploiement et de dotation des hommes en uniforme ainsi que de l'article 113 du Code pénal militaire. Rappelons que dans une dispute autour de la distribution de la nourriture pour les réjouissances de la journée de la Saint-Sylvestre, ce brigadier chef Mutombo Kanyamecha Dominique a tiré à bout portant sur trois sujets chinois dont deux sont morts sur place. Depuis lors, il court toujours dans la nature, malgré le 1 million de francs congolais débloqué par la mairie de Mouneditou comme récompense à remettre à celui qui donnera des informations sur ce présumé meurtrier. Esther Ndalafina, Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale. Au Soudan, plus de 30 millions de personnes, dont plus de la moitié sont des enfants, ont besoin d'aide après 20 mois d'une guerre dévastatrice dans ce pays d'Afrique de l'Est, ont annoncé le 6 janvier. Les Nations Unies, l'ONU a lancé un appel de fonds de 4,2 milliards de dollars, ciblant 20,9 millions de personnes à travers le Soudan, sur un total de 30,4 millions de personnes qui sont dans le besoin en raison d'une crise humanitaire sans précédent, selon l'ONU.
L'invité.
Le Centre pour handicapés physiques Chirika Laoumoudia de Goma a célébré l'année dernière ses 60 ans de service à la communauté, créé le 15 septembre 1964. Ce service de l'Église catholique géré par la Congrégation des Frères de la Charité accompagne en moyenne 2000 personnes chaque année. À l'occasion de cet anniversaire, nous recevons Monsieur Sylvain Siahava, administrateur de ce centre, pour nous parler du service offert par cette œuvre du diocèse de Goma. Il est accueilli par Rosalie Zawadi.
Monsieur Sylvain Siahava, bonjour.
Bonjour Madame la journaliste.
Vous avez récemment organisé une matinée porte ouverte pour montrer à la population les services que le Centre pour handicapés physiques Chirika Laoumoudia rend à la communauté. Quels sont ces services?
Les services qui sont organisés ici, comme vous le savez, nous sommes un centre spécialisé dans les domaines de la rééducation physique à travers deux grands services. Les services de kinésithérapie, mais aussi les services d'appareillage orthopédique. Aux côtés de ces deux grands services, nous avons des services connexes, la logistique et l'administration, qui essayent de mettre tout en musique pour que ça fonctionne. Mais les gros, c'est le service, les soins de kinésithérapie et l'appareillage orthopédique aux personnes handicapées. Alors, les soins de kinésithérapie qui est subdivisé en plusieurs unités, nous avons un pavillon spécialisé pour les soins des enfants infirmes moteurs cérébraux. Nous avons un pavillon dédié aux soins des patients paraplégiques, ceux-là qui sont paralysés des membres supérieurs ou inférieurs. Et nous avons aussi un service de kiné qui s'occupe de la rééducation à la marche, qui travaille en collaboration avec l'appareillage orthopédique.
Et c'est depuis 60 ans que le centre est opérationnel. Comment ont évolué les services que vous offrez?
Au départ, à la création, cela a commencé par une école d'apprentissage des métiers aux personnes handicapées qui circulait dans la ville de Goma. Et par après, aussi avec un service minimum de soins de kinésithérapie. Au fil des années, le centre a pris des dimensions importantes au sein de la communauté jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui.
Comment vous assistez les enfants?
Plusieurs techniques sont utilisées dans ce domaine-là pour pouvoir récupérer ce qui peut l'être auprès de ces enfants qui sont touchés de l'infirmité motrice cérébrale. Entre autres techniques, ils appliquent la stimulation précoce pour essayer de stimuler certains aspects pour que les enfants reprennent un peu leur motricité aux côtés d'autres séances de soins de kinésithérapie que les kinésithérapeutes essayent de donner aux enfants.
Le centre est opérationnel à Goma, mais vous recevez les patients de quel milieu?
Le rayon d'action du centre, il est vaste. Je parlerai de l'Est de la RDC parce que nous avons des patients qui nous viennent de Kisangani, nous avons des patients qui nous viennent de Butembo, nous avons des patients qui nous viennent de Kindu, parce qu'il faut dire, partout là-bas il y a des centres, mais l'ampleur de ces centres n'est pas les mêmes que ces centres qui sont situés situés dans ces milieux. Mais nous avons des patients qui nous viennent aussi des villes et provinces voisines de la RDC, telles que Gisenyi et d'autres provinces du Rwanda.
En moyenne, combien de personnes fréquentent les centres chaque année?
Chaque année, au terme des services que nous rendons aux bénéficiaires, plus de 2000 bénéficiaires sont reçus ici chez nous en consultation et divers domaines de prise en charge.
Et à quels défis vous faites face dans ce travail en faveur de la communauté?
Les défis sont majeurs. Ce centre spécialisé comme celui-ci, pour fonctionner, il a besoin de consommables. Et les marchés en termes de consommables, nous devons importer tout ce que nous mettons en contribution pour rendre service à la communauté. Notre rayon d'action, il est limité actuellement à cause de toutes ces violences récurrentes et ces guerres à répétition. Ça fait que nous avons des bénéficiaires à qui nous ne savons pas rendre service parce qu'ils sont bloqués dans les axes à l'intérieur de la province. Et un autre défi, c'est la vulnérabilité de la communauté qui nous fréquente. Elle est touchée par ces guerres à répétition et la situation économique du pays que vous connaissez. Et donc, nos revenus au niveau de la mobilisation au niveau local sont faibles, alors que les besoins pour la prise en charge des bénéficiaires deviennent de plus en plus importants.
Et parce que nous sommes au début de l'année, quelles sont vos perspectives pour cette année nouvelle?
Nous pensons, au courant de cette année, et continuer comme les autres années, à intensifier notre programme de plaidoyer auprès de nos autorités pour voir dans la mesure du possible comment ils peuvent accompagner ces centres en termes de soutien de divers ordres. Nous pensons également continuer la sensibilisation de la communauté par rapport à la prise en charge des vulnérables et autres personnes handicapées dans notre communauté. Nous pensons aussi intensifier notre service auprès de la communauté tout en améliorant davantage avec autant de formations internes pour améliorer la qualité et la prestation de nos bénéficiaires de services.
Monsieur Sylvain Siahava, je rappelle que vous êtes l'administrateur du Centre pour handicapés physiques à Chirika la Umoja de Goma. Merci.
Merci Madame la journaliste.
Ce journal a été coordonné par Richard Junior Kamunga, supervisé par Alain Irung, mise en onde Polydor Basunga. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. Excellente soirée à tous.